Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre très importante série « Croire, comme le dit l'Écriture sainte ». Et nous arrivons à l'étude numéro 18. Pour devenir chrétien, il n'y a rien à payer. Par contre, pour devenir un disciple de Jésus-Christ, il faut en payer le prix. Ceci est à méditer. C'est à méditer, même sérieusement. Donc, la nouvelle croix de nos jours est un peu différente de la vieille croix d'autrefois. Les paroles du pasteur bien connu, A.W. Tozer, écrites pourtant il y a de nombreuses années, sont d'une actualité et d'une lucidité étonnante concernant la légèreté de la foi et du message enseigné dans beaucoup d'églises de nos jours. Il déclare, sans avertir et presque inaperçu, une nouvelle croix s'est introduite dans les milieux évangéliques de notre époque. Elle ressemble à l'ancienne, c'est vrai, mais elle est différente. Les similitudes sont superficielles, mais les différences sont fondamentales. Premièrement, la nouvelle croix ressemble à l'ancienne, mais les différences entre les deux sont fondamentales. Tozer continue en ces termes. Il dit que cette nouvelle croix a fait germer une autre philosophie de la vie chrétienne de laquelle est née une nouvelle technique évangélique, c'est-à-dire un nouveau style de réunion avec un nouveau genre de prédication. Cette nouvelle façon d'évangéliser emploie le même langage que l'ancienne, mais son contenu n'est pas le même et sa puissance n'est plus celle d'autrefois. La vieille croix, elle n'avait aucun rapport avec le monde. Pour la chair orgueilleuse d'Adam, elle signifiait la mort. Elle mettait à exécution la sentence imposée par la loi du Sinaï. Or, la nouvelle croix n'est pas opposée à la race humaine, mais elle en est au contraire une partenaire amicale, et si je comprends bien, elle alimente le flot d'amusements légitimes et d'innocentes réjouissances. Elle laisse donc Adam vivre sans aucune entrave, avec une motivation inchangée. Il peut continuer à vivre pour son plaisir, et maintenant, au lieu de se réjouir à chanter des chansons douteuses en buvant des boissons fortes, or en allant à la fête de la bière de Berl, de chez les Bavarois, à Munich, de mon lapsus, eh bien, aujourd'hui, il se réjouit à chanter des cantiques et à regarder des films religieux. Ah, c'est pas mal, ça. Donc, l'accent reste toujours sur la jouissance qui se tient cette fois sur un plan plus élevé. La nouvelle croix, dans la prédication de l'Évangile, encourage une approche toute nouvelle. L'évangéliste moderne ne réclame plus le renoncement à l'ancienne vie, et cela pour que la vie nouvelle puisse s'installer. Non, il ne prêche pas des contrastes, mais il prêche des similitudes. Par exemple, il cherche à se mettre au diapason de l'intérêt général, en montrant que le christianisme n'a pas d'exigence désagréable, bien au contraire. Il offre tout ce que le monde offre, mais à un niveau tout de même supérieur. On peut dire avec humour, c'est du bio. Tout ce après quoi le monde, corrompu par le péché, aspire de nos jours, c'est habilement présenté comme étant très proche de ce que apporte l'Évangile, le produit religieux étant, bien entendu, beaucoup meilleur. Deuxièmement, la nouvelle croix, elle prêche un message dévié de l'Évangile pour être accepté du public. Notre théologue très érudit, Tozer, poursuit en disant « La nouvelle croix ne met pas le pécheur à mort, pas du tout, mais elle le réoriente, c'est pas mal, hein ? Elle le renvoie dans une autre direction, dans un mode de vie plus sain, et plus heureux surtout, tout en sauvegardant son amour-propre. À celui qui est autoritaire, elle dit « Viens et affirme-toi pour Christ ». À celui qui est imbu de lui-même, et il y en a, elle dit « Viens et glorifie-toi dans le Seigneur ». À celui qui est avide d'émotion, elle dit « Viens et repais-toi de communion fraternelle ». Le message de l'Évangile est dévié dans le sens du courant en vogue d'aujourd'hui, pour être accepté du public d'aujourd'hui. La philosophie qui se tient derrière est sans doute sincère, pourquoi pas ? Mais sa sincérité ne l'empêche pas d'être fausse. Elle est fausse parce qu'elle est aveugle. Elle passe complètement à côté de la signification fondamentale de la croix. Prêchons donc la vieille croix et nous connaîtrons la puissance des premiers chrétiens. Nous qui prêchons l'Évangile, ne nous considérons pas comme des agents de relations publiques envoyés pour établir de bons rapports entre Christ et le monde. Ne nous établir, on peut dire, imaginons pas, oui, ne nous imaginons pas, chers amis, d'être chargés de missions pour rendre Christ acceptable, par exemple, acceptable auprès du grand commerce, auprès de la presse, auprès du monde du sport ou de l'enseignement moderne. Nous ne sommes donc pas des diplomates, mais nous sommes des prophètes. Et notre message n'est pas un compromis, pas du tout. Mais notre message est un ultimatum. Ça, c'est très différent. Troisièmement, cette déviation de la prédication de l'Évangile, elle a engendré un véritable fiasco spirituel. Oui, cette déviation dans la prédication de l'Évangile a donc engendré chez certains chrétiens un véritable fiasco spirituel. Et chez d'autres, eh bien, elle a provoqué une profonde confusion et même un vide intérieur. Tout cela a donc ouvert la porte à l'esprit du monde, évidemment, à la séduction et à toutes les nouvelles hérésies extra-bibliques actuelles. Si pourtant de chrétiens, le problème est un manque de consécration, eh bien pour d'autres, c'est l'excès contraire. Leur consécration est réelle, mais elle est un peu mal orientée, et cela se traduit parfois par un zèle sans connaissance, avec toutes les tragiques conséquences et les désordres qui en découlent. Quand le diable ne peut nous retenir, alors il nous pousse en avant. Vas-y, tête baissée. Le message de la consécration du chrétien, tel que la Sainte Bible l'enseigne, est donc actuellement l'un des besoins les plus urgents de et dans l'Église. Il réglerait rapidement et durablement bien des problèmes complexes et insolubles, tant personnels que communautaires. Et dès lors, la question que tout chrétien devrait se poser, c'est la suivante. Voyons, suis-je un chrétien consacré? Ma vie glorifie-t-elle réellement le Seigneur? Comment le savoir et de quelle manière y parvenir? Eh bien, cela sera précisément le sujet de cette étude. Dieu s'attend donc vraiment à ce que la vie de chaque chrétien soit une offrande à Dieu, selon Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. Quatrièmement, tous les disciples sont des chrétiens, mais tous les chrétiens ne sont pas forcément des disciples. D'après le Nouveau Testament, un chrétien consacré est un disciple de Jésus-Christ. Les disciples sont des chrétiens, mais tous les chrétiens ne sont pas forcément des disciples. Certes, ils le sont potentiellement s'ils sont par exemple nés de nouveau, mais pas automatiquement, parce qu'il y a un prix à payer pour y parvenir, est-il dit dans Saint Marc, chapitre 8, verset 34. Donc, selon les évangiles, le mot « disciple » est le terme qualifiant le mieux le chrétien consacré. Ainsi, pour découvrir le caractère d'une telle personne, il est indispensable d'étudier les qualités d'un disciple de Jésus-Christ. Être un disciple de Jésus-Christ n'est pas un nouveau programme en vogue à essayer pendant un laps de temps, mais c'est une consécration pour l'éternité. Il ne s'agit pas non plus d'appartenir à une élite, à un groupe ou à une église qui serait beaucoup supérieure aux autres. C'est surtout le contraire, c'est-à-dire c'est aimer, c'est suivre Jésus et sa sainte parole de tout son cœur. Jésus n'a pas dit « suivez un homme, même très célèbre, un orateur exceptionnel ou une église qui me représente », mais il a dit « suivez-moi et apprenez de moi. » Saint Jean, chapitre 1, verset 43, et Saint Matthieu, chapitre 11, verset 29. Cependant, beaucoup se considèrent chrétiens et n'étudient que très rarement la Sainte Bible d'une manière sérieuse. Il y a donc là, me semble-t-il, une attitude regrettable. Il laisse au pasteur le soin de faire pour eux absolument tout. L'aide des autres est nécessaire, mais elle ne doit jamais se substituer à notre étude personnelle. Cinquièmement, la vieille croix, c'est offrir au Seigneur Jésus la direction totale de sa vie. On a demandé un jour au général William Booth, le fondateur de l'armée du salut, quel était le secret de son succès. Il a répondu avec des larmes dans les yeux. Eh bien, voyez-vous, j'ai offert au Seigneur le contrôle total de ma vie. Je répète ce qu'il a dit. J'ai offert au Seigneur le contrôle total de ma vie. Voilà donc en résumé et en peu de mots ce que signifie être un chrétien consacré. Cet homme a fait, comme nous le savons tous, un merveilleux travail pour le Seigneur et connu dans le monde entier. Quelqu'un s'est approché un jour de George Müller, un autre serviteur de Dieu bien connu, et lui a demandé également quel était le secret de son ministère à lui. Il a répondu, il y a eu un jour où George Müller mourut complètement. Et tout en parlant, il se courba si bas qu'il finit par toucher le sol. Et il continua, je mourus totalement à George Müller, à ses opinions, à ses préférences, à ses goûts et même à sa volonté. Je mourus au monde, à son approbation et à ses critiques, à l'approbation ou au blâme même de mes frères et amis. Et depuis, je n'ai désiré qu'une seule chose, être approuvé de Dieu. Chers amis, ça donne à réfléchir, en tout cas à moi. Quel bel exemple de consécration! Lui aussi a fait une œuvre extraordinaire pour le Seigneur. Recherchez son livre, c'est sûrement out of print, mais certains possèdent l'internet et ils peuvent donc trouver. Oui, un vrai chrétien, c'est donc un disciple qui cherche avant tout à faire ce qui plaît à Dieu. C'était la manière de vivre des premiers chrétiens. Ils savaient, eux, que Jésus-Christ était vivant et ils le montraient dans leurs décisions de chaque jour. Aussi, leur vie était, on peut dire, soumise totalement à sa personne, lui étant totalement consacré. Ils avaient donc un amour fervent pour leur maître et ils rendaient un témoignage fidèle et puissant, ce qui a permis à l'Évangile de se répandre et d'atteindre même le monde d'alors. Oui, chers amis, puissions-nous être de ce nombre-là. L'Église d'aujourd'hui a un urgent besoin d'hommes ayant la vision de la vieille croix, apportant le message de la croix et portant les marques de la croix. Ensuite, un chrétien consacré est un disciple. Lorsque la reine Victoria régnait donc en Angleterre, elle a visité un jour, occasionnellement, les plus humbles demeures de ses sujets. Or, un jour, la reine Victoria entra dans la petite maison d'une veuve chrétienne pour s'entretenir quelques instants avec elle. Après l'entrevue, la vieille dame fut interpellée par ses voisins incroyants et très hostiles à son égard. « Madame, dirent-ils, quel est l'invité le plus illustre que vous ayez reçu chez vous ?» Il s'attendait évidemment à ce qu'elle dise « Jésus », car bien qu'elle soit constamment ridiculisée à cause de sa foi, il la reconnaissait tout de même pour être une chrétienne sincère et profonde. Mais voilà qu'à leur grande surprise, cette chrétienne âgée répondit « Eh bien, voyez-vous, l'invité le plus illustre que j'ai reçu fut Sa Majesté la Reine Victoria. Vous voulez donc dire la Reine ? Eh bien, chère madame, cette fois, vous êtes bel et bien prise au piège. Qu'en est-il alors de votre fameux Jésus dont vous parlez toujours ? Alors là, si vous êtes assis, c'est bien. Si vous êtes debout, j'ai peur que vous allez tomber. Car sa réponse fut précise et très directe. Non, non, non. Jésus n'est pas un invité. Il est mon maître. Il est le Seigneur de ma maison. Chers amis, c'est malheureusement vrai. Dans la vie de beaucoup de chrétiens, Jésus n'est qu'un invité et non le Seigneur. Cela signifie qu'ils ne sont pas de vrais disciples. Ils dirigent encore eux-mêmes leur existence et c'est la raison pour laquelle toute leur vie chrétienne est triste, insatisfaite, égoïste et stérile. Un jour, dans une convention, un chrétien rendit témoignage du changement radical qui s'était produit en lui, surtout concernant son attitude à l'égard de la personne de Christ. « J'étais un chrétien, dit-il. Jésus était mon sauveur, mais il n'était pas mon Seigneur. Il était le président d'honneur de ma vie, d'accord ? Mais moi, j'en étais le premier ministre. J'étais donc le maître, et lui, le Seigneur, était le serviteur. Mais maintenant, tout a totalement changé. Il est le Seigneur, le maître maintenant. Et moi, je suis devenu son serviteur. Ça, ça change tout. Il est donc mon Seigneur et je suis devenu son disciple pour toujours. Les rôles ont été inversés. Cela fait toute la différence dans ma vie chrétienne. Depuis ce moment-là, je jouis d'une paix profonde et de sa pleine bénédiction. Alléluia. La nécessité d'être un chrétien consacré ou un disciple n'est pas une simple option, mais c'est un ordre. C'est l'un des messages fondamentaux de Jésus à ses disciples avant de quitter la terre. Selon Saint Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. Il ne veut pas seulement que le monde entier entende son évangile, mais il désire que ceux qui acceptent son message comprennent bien ce que signifie être un vrai chrétien et le changement radical que cela implique dans leur vie. Premièrement, il y a une grave lacune dans la prédication de l'évangile. Car voyez-vous, être un chrétien, ou si vous voulez, un disciple de Jésus véritable, cela n'est pas du tout synonyme d'une foi très facile, comme cela est enseigné aujourd'hui dans certaines églises. Ce n'est pas non plus un message destiné exclusivement à une élite spirituelle. De nos jours, on fait une distinction entre ceux qui acceptent Christ comme leur sauveur et ceux qui le confessent réellement comme le Seigneur de leur vie. On en fait donc deux expériences distinctes, alors qu'en réalité la Sainte Bible n'en évoque qu'une seule. Jésus est devenu le sauveur des hommes pour être leur Seigneur. Les deux rôles sont absolument inséparables. Les chrétiens disent avoir accepté Christ, mais uniquement pour fuir l'enfer et aller au ciel. Ils ne semblent pas concernés par l'importance de l'établir comme Seigneur absolu de leur nouvelle vie. Ils chantent là-bas à Munich, « Wir gehen alle, alle in den Himmel ». Nous allons tous au ciel en buvant un litre de bière d'un coup. Eh bien, ça se passe pas tout à fait comme ça. On va pas tous simple course au ciel simplement parce que on fait partie d'une famille ou d'un pays sous l'égide chrétienne. Pour eux, le salut peut se comparer, par exemple, à la queue qu'ils font dans une cafétéria pour choisir les plats qui leur conviennent le mieux. Ils font de même avec Jésus. Ils le choisissent comme sauveur, d'accord, mais ils passent outre sa seigneurie. Ils prennent ce qui leur plaît dans l'évangile et ils délaissent ce qui les dérange beaucoup. Or, une telle attitude est étrangère à l'esprit de l'Évangile et laisse l'homme dans ses péchés, incapable d'expérimenter une vie nouvelle. L'Évangile mutilé que nous entendons de nos jours génère des chrétiens mondains, faibles, insatisfaits, ignorant les vérités essentielles des Saintes Écritures, et de ce fait, ils sont incapables de discerner les ruses et les séductions de l'ennemi. Il existe de plus en plus une sorte de foi assez bon marché dans le christianisme actuel, où la confession de Jésus comme Seigneur lors de la conversion est totalement ignorée. Il est significatif de constater que le mot « sauveur », il paraît seulement 24 fois dans le Nouveau Testament, alors que celui de « Seigneur » apparaît 433 fois. Vous pouvez contrôler. Les évangiles mettent ainsi en évidence qu'un vrai chrétien a fait de son sauveur le Seigneur et maître de sa vie. La sainte parole de Dieu déclare très clairement que lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, à moi-même. Ayant été racheté à un très grand prix, nous devons, je dois désormais glorifier Dieu dans mon corps et dans mon esprit qui appartiennent maintenant à Dieu. Selon 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20. J'étais, pendant de nombreuses années, et j'ai honte de vous l'avouer, parce que j'en ai vraiment honte. J'étais un pseudo-chrétien. J'en dirai pas plus parce que c'est trop long. Et on s'écarterait de notre sujet. Deuxièmement, l'ordre de Jésus, c'est de faire des disciples, et non pas seulement des convertis momentanés. Le grand commandement adressé aux premiers apôtres et disciples de Jésus-Christ était « Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Saint Matthieu, chapitre 28, verset 19. Assurément, l'ordre du maître était de faire des disciples, et pas seulement des convertis. Il ne s'agit pas d'obtenir à tout prix des décisions, ou peut-être remplir un formulaire de décision que vous donnez au pasteur. Non, cela se fait souvent dans l'évangélisation actuelle. Mais cette défaillance, elle a produit une multitude de chrétiens souvent immatures et instables qui sont devenus des perpétuels assistés. N'est-ce pas là une des plus grandes lacunes de l'Église et de son manque de dynamisme? Voyez-vous, le mot « disciple », et c'est pas moi qui le dis, vous pouvez contrôler. Le mot « disciple » apparaît 269 fois dans le Nouveau Testament, alors que celui de chrétien est visible seulement 3 fois. Et ce dernier nom était seulement donné à ceux qui étaient déjà des disciples. Actes des apôtres, chapitre 11, verset 26. Donc, le nom de disciple signifie élève, être un élève. Dans le texte original, ce terme ne correspond pas du tout à un étudiant perpétuel, un étudiant inerte et passif, emmagasinant seulement des connaissances théoriques, mais il s'agit plutôt de quelqu'un qui suit, qui va suivre son maître avec la ferme intention de mettre en pratique ce qu'il a entendu en vue de le communiquer ensuite à d'autres. Rappelons que du temps de Jésus, cette forme d'apprentissage était couramment utilisée pour former des leaders spirituels. Un rabbi, par exemple, avait avec lui des élèves qui le suivaient de très près et vivaient même avec lui. Leur but était d'apprendre tout ce que le maître pouvait leur enseigner et d'imiter même son style de vie. Par conséquent, un disciple, c'est celui qui vit près de Jésus et qui, par sa vie et par son travail, le fait désirer autour de lui. Ainsi, un disciple est quelqu'un qui a un ardent désir d'apprendre en vue de pratiquer ce qu'il doit connaître avant tout. C'est bien entendu la vérité, car c'est elle qui va le libérer, selon Saint Jean, chapitre 8, verset 32, et qui va le préserver de l'erreur. C'est donc une personne qui, regardant à Jésus, apprend à vivre dans l'obéissance, la sainteté, le renoncement, afin d'être une source de bénédiction pour les autres. Être un disciple de Jésus-Christ est beaucoup plus qu'une simple acceptation du pardon et de la vie éternelle. Moi-même, j'avais pas compris ça pendant de nombreuses années, et j'ai honte de vous l'avouer, parce que c'est s'engager volontairement et joyeusement dans un processus de formation et de transformation. Et c'est aussi se soumettre, oh oui, à l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, tant sur le plan doctrinal que dans notre vie quotidienne. Lorsque on évoque la nécessité de consacrer sa vie entièrement au Seigneur au moment de la conversion, les nombreuses références bibliques ne manquent pas, ce qui atteste, me semble-t-il, que cette vérité était fortement soulignée par les apôtres. Il nous est dit que les premiers disciples, aussitôt après leur conversion, persévérèrent dans l'enseignement des apôtres. Actes, chapitre 2, verset 42. Ceci est très important. Voyez-vous, au début de l'ère chrétienne, avoir la foi, cela signifiait beaucoup plus que simplement accepter Christ en levant les mains ou un doigt et pour dire « voilà, j'ai accepté Jésus-Christ, alléluia ». C'était surtout un engagement total à se soumettre au Seigneur et à obéir en l'enseignement biblique prêché par les apôtres. Actes des apôtres, chapitre 14, verset 22, et noté chapitre 19, verset 20, toujours dans Actes, notez chapitre 20, verset 32, et notez encore Tite, chapitre 1, verset 9 jusqu'au verset 14. Donc, la définition du Seigneur lui-même concernant la véritable foi confirmait leur message. Elle se résumait en des mots équivalents aux leurs, c'est-à-dire « recevez ». Maintenant, mes instructions. Saint Matthieu, chapitre 11, verset 29. J'ai pris cela dans la version allemande. Ne vous en faites pas, c'est à peu près pareil chez vous. Il est donc important de réaliser que la formation d'un disciple, cela implique beaucoup plus qu'une simple connaissance biblique et de certaines vérités doctrinales. Il doit apprendre à vivre la vie chrétienne d'une manière pratique, de telle sorte que tout son comportement et même son caractère change radicalement. Être disciple, c'est donc obéir à la foi. Actes des apôtres, chapitre 6, verset 7. Et pas seulement avoir une connaissance de la foi. sans la mettre en pratique, la foi, sans la mettre en pratique, eh bien, ça veut dire aussi sans la concrétiser. C'est pas le tout d'avoir quelques connaissances bibliques. C'est très bien, pourquoi pas. Mais le Seigneur nous demande de mettre en pratique et de concrétiser ce que nous avons appris. Troisièmement, le disciple obéit seulement au Seigneur et à sa sainte parole. On enseignait aux disciples à observer tout ce que Jésus leur avait prescrit et rien d'autre. Saint Matthieu, chapitre 28, verset 20. Les saintes écritures seules étaient d'inspiration divine. Deuxième épître de Timothée, chapitre 3, verset 16. Et non les dogmes, non seulement les commandements humains ou les traditions religieuses. Ainsi, voyez-vous, être un disciple ou un chrétien consacré, ne signifie pas qu'il faille accorder une obéissance aveugle à un gouvernement autoritaire dans l'Église, ou encore à des ministres reconnus, aussi impressionnants soient-ils. Mais c'est surtout, voyez-vous, c'est surtout d'avoir une volonté sincère d'apprendre les enseignements de Jésus-Christ selon la Sainte Bible et de s'y soumettre. Être un vrai disciple de Jésus-Christ, cela veut dire apprendre et à obéir. Toute conception de l'Évangile qui ne comporte pas une telle soumission à la Seigneurie de Christ et à sa Sainte Parole ne saurait correspondre aux exigences du Nouveau Testament. La première étape à franchir pour le disciple consiste donc à abandonner sa volonté à celle de Jésus-Christ, et cela afin d'expérimenter une transformation radicale de tout son être et de vivre une vie chrétienne consacrée. Quatrièmement, êtes-vous un fan ou êtes-vous un disciple de Jésus ? Ça, c'est pas tout à fait pareil. Du temps de Jésus, beaucoup de ceux qui le suivaient étaient en réalité des fans et non pas de véritables disciples. Il existe une grande différence entre ces deux. Du reste, en voici un exemple très frappant. Voyez-vous, les saintes évangiles nous parlent d'une foule qui suivait, paraît-il, Jésus sur les bords de la mer de Galilée. Et là, il venait de nourrir des milliers de personnes avec 5 pains et 2 poissons. Or, le jour suivant, la multitude était revenue. Mais, chers amis, cette fois, au lieu de leur accorder du pain, Jésus les a enseignés sur les vérités fondamentales de la sainte parole de Dieu. Alors ils étaient fort déçus, oh là là, ils étaient déçus de ne recevoir que des enseignements spirituels et non pas du pain. Elle, la foule, se dispersa presque aussi vite qu'elle était rassemblée. Oh là là, c'est affreux. Jésus, discernant leur motivation égoïste, leur dit « Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Et dès ce moment, eh bien, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui est-il dit dans Saint Jean, chapitre 6, verset 26, et je crois que vous pouvez ajouter le verset 66. C'est donc dans une situation comme celle-ci que nous voyons la différence entre un fan, et un disciple de Jésus. Vous comprendrez que ce n'est pas tout à fait pareil. Les fans suivent par intérêt et manque de persistance et de consécration. Alors à ce moment-là, ils se retirent, surtout quand les difficultés arrivent et avancent constamment des excuses multiples. Les disciples, eux, totalement désintéressés. Et comment ? Ces disciples authentiques continuent de suivre fidèlement leur maître jusqu'à la fin, quels que soient les obstacles qu'ils rencontrent sur leur route. Ces deux catégories de personnes étaient présentes à Jérusalem. N'existent-elles pas également aujourd'hui? Bien sûr. En effet, les fans sont nombreux et instables, alors que les vrais disciples sont plutôt, disons-le franchement, assez rares, mais ils sont persévérants. Jésus sait discerner les uns des autres. On ne peut pas le tromper par des apparences fausses et pompeuses. Nous pouvons leurrer les hommes, oh oui, mais croyez-moi, nous ne pouvons pas leurrer le Seigneur. Saint Jean chapitre 2, versets 23 à 25, car un jour ou l'autre, chacun de nous, et moi y compris, devra rendre compte à Dieu pour lui-même. Selon Romains, chapitre 14, verset 12, et moi très bientôt, vu mon très grand âge. Les fans applaudissent énergiquement lorsque tout va comme ils veulent eux. Mais quand le moment de se consacrer arrive, voilà qu'ils disparaissent. Ils font la queue pour recevoir des bénédictions, peut-être une guérison par-ci par-là. Mais quand il s'agit de prendre position pour la saine doctrine ou d'opter pour une vie sanctifiée qui va honorer Dieu, alors là, ils se retirent. Les fans étaient présents, et comment, quand Jésus a fait son entrée triomphale dans Jérusalem? Mais je vous pose une question. Où étaient-ils ces fans quelques jours plus tard, au moment où on l'a conduit sur le mont Golgotha? Où étaient-ils? Les fans préfèrent la consolation. Je répète, les fans préfèrent d'être consolés et beaucoup plus que la consécration. Ils recherchent donc des bénédictions journalières, mais ils refusent une vie disciplinée. Ils veulent des victoires, pourquoi pas? Mais ils ne sont pas décidés à obéir à leur maître. Ils convoitent une couronne, ça oui, mais ils ne sont pas prêts à porter leur croix. Leur évangile est donc un évangile sans croix, et un évangile sans croix, me semble-t-il, est un autre évangile. En conclusion, et pour terminer l'étude d'aujourd'hui, sommes-nous prêts, vous et moi, à payer le prix pour devenir de vrais disciples de Jésus-Christ? Trop de chrétiens allègue sans cesse d'innombrables excuses pour éviter de se consacrer au Seigneur. Toutefois, attention aux fausses consécrations. l'engagement de chrétien ne doit jamais être le résultat de la manipulation ou de la domination d'une personne sur lui. Elle doit être donc une réponse libre, joyeuse et volontaire de sa part. Elle doit être motivée par l'amour pour son Sauveur et son Maître. L'apôtre Paul décrit parfaitement bien cette fameuse motivation profonde quand il a déclaré dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 et 15, je répète 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 et 15, là il a dit, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour eux. Et nous pouvons tous dire là, Amen. Nous allons prier ensemble pour terminer. Prions. Seigneur notre Dieu, arrache-nous aux préoccupations mesquines de notre vie d'égoïsme et de lâcheté, aux petitesses de nos habitudes et de nos habituels soucis, aux minuscules horizons dont notre âme se contente, hélas, à nos bons désirs sans envergure, oui, à notre flasque religiosité, à la quotidienne médiocrité de nos existences repues et honorables. Arrache-nous à tout cela pour nous traîner bon gré mal gré devant le spectacle de la libre et victorieuse sainteté, oui, devant l'humiliant et douloureux prodige, devant les purs, devant les vainqueurs, devant les violents pour lesquels est conquis le divin royaume des saints. Oui, tous ceux qui sont devenus tes vrais disciples, bénis soient-ils, gloire, louange et honneur à toi, Dieu notre Père, Fils Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces messages. Et Dieu voulant, à demain matin, la suite, bien sûr, à mon très grand âge, n'importe quoi peut arriver, je suis dans les mains de mon Sauveur et Seigneur, c'est lui qui tient ma vie dans ses mains, et je lui ai promis d'être son esclave d'amour pour l'éternité, et tant qu'il voudra que je continue de faire ses CD, je le ferai jusqu'au jour où il me reprendra. Ça peut être très bientôt. Bien sûr, j'en suis très conscient. C'est pour ça, je vous dis franchement, je fais tout pour m'adonner, pour me discipliner, uniquement pour faire ce que je fais, et j'évite tout plaisir éphémère. C'est terminé tout cela depuis longtemps. J'appartiens, corps, âme et esprit, à mon Sauveur et Seigneur. Je dois quand même vous dire quelque chose, ne faites pas comme moi. N'attendez pas d'avoir un âge certain ou un certain âge pour vous consacrer. Vous qui êtes jeune, soyez un peu plus sage et plus intelligent que je l'étais, et consacrez-vous maintenant, aujourd'hui même, car le temps qui reste est très court. Tout fout le camp. Une politicienne en France est éradiée, fichue dehors, avec une amende forte et avec tout le reste, uniquement parce que elle a stipulé que l'homosexualité n'était pas recommandable, mais plutôt un scandale, une honte, et tout le reste, une abomination. C'est pas elle qui prétendait cela, elle répétait simplement ce que son vieux livre lui disait. Et son avocat a dit devant les juges, alors, bientôt il vous faudra brûler les Bibles. Il a dit cela. Ils n'ont pas répondu. Ils n'ont rien répondu. Oui, ça devient difficile. Il paraît qu'une nouvelle loi va être depuis l'année prochaine. Je ne sais pas si ça sera en vigueur déjà en janvier. Je ne veux pas vous dire quelque chose que je ne sais pas totalement. Mais on ne pourra plus donner ni un tract, ni un verset biblique, ni un CD, ni un évangile à qui que ce soit, sans être puni, et voire même, si ça arrive une deuxième fois, la prison assurée. Ah ah, je crois que ça donne à réfléchir, non? Chers amis, à demain matin, Dieu voulant, que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime de tout mon cœur, mais le Seigneur, lui, il vous aime au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. À demain matin, au revoir.